Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
À titre personnel, insister encore beaucoup sur l'importance de l'OCDE et sur la nécessité de lire, relire et revoir les productions de l'OCDE. On disait généraliste dans le sens d'une approche généraliste de la complexité, avec une petite distance dans le temps qui permet de mesurer les choses. Et par exemple, le fait que vous ayez évoqué la mise en évidence de tendances me paraît tout à fait important, précisément dans tous les travaux que l'on doit faire, qu'il s'agisse de travaux de recherche, de légistique, d'ingénierie juridique. Comme vous l'avez dit, si on lit souvent les travaux de l'OCDE, on s'aperçoit que ce n'est pas nouveau. On a souvent, nous, tendance, dans l'application, dans la mise en œuvre de nos travaux, d'avoir, pour employer une expression un petit peu vulgaire, le nez dans le guidon. Donc on ne voit pas tellement les choses, on croit qu'on est dans l'urgence. Et là, ce travail est souvent essentiel pour nous éclairer. Donc je fais de la pub pour l'OCDE. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste, alors selon les organisateurs, environ 19 minutes et 30 secondes, je pense, pour poser des questions. Vous avez la parole.
Nicolas Arpagian, donc de l'INEGI. Deux questions, une toute simple. Qu'est-ce qui peut expliquer ou indiquer, en tout cas nous orienter pour expliquer le fait que la Russie n'ait pas intégré la Convention de Budapest, ne l'ait pas signée? Et la deuxième pour l'OCDE, qu'est-ce qui fait qu'au mois de janvier, un rapport a été publié alors par votre organisation, qui fait qu'apparemment, soit vous êtes schizophrène, soit y a des rapports qui sortent qui ne devraient pas sortir, soit on les impute à l'OCDE alors qu'on ne devrait pas le faire. Mais en tout cas, effectivement, qui relativisait, parlait d'escarmouches sur Internet, et que, enfin je résume, mais que tout cela n'était pas très sérieux et que ce n'était pas la vraie vie. Enfin, je résume à grands traits. Merci.
Merci pour la question. À vrai dire, cela me rappelle notre rencontre avec Madame Kemener pendant l'Union UNIFAP. J'ai fait la représentation, l'intervention sur la protection de la propriété intellectuelle en Russie et aux changements qui existent. Et on m'a demandé pourquoi on ne signe pas l'ACTA. C'est bien la question les questions qui se correspondent. Et moi, j'ai répondu qu'il existe quand même quelque chose de plutôt politique entre nous, oui, entre guillemets. Et je ne dois pas répondre pourquoi, mais j'ai dit que c'est plutôt, il faut quand même entrer à OMC et puis parler de tous les problèmes qui s'évoquent. Je crois que c'est presque le même sujet à la question de la convention, du traité de Budapest, parce que il ne faut pas oublier qu'il existe aussi les TRIPS, etc. Et on peut continuer cette liste à qui on ne fait pas partie, mais ça ne veut pas dire que quelque chose ne se passe en Russie ou bien on ne veut pas. Je crois que c'est toujours la question du temps qui existe aussi et le manque des trucs que j'ai bien nommés. Bien sûr, la transparence aussi, l'efficacité de nos services et l'argent et beaucoup d'autres choses. Mais c'est aussi politique, je crois, quand même, plutôt que juridique.
Merci pour votre question. Alors, en janvier 2011, est sorti un rapport de l'OCDE qui n'est pas un rapport de l'OCDE, mais qui est quand même un rapport de l'OCDE, c'est assez complexe. Donc, l'OCDE est une organisation intergouvernementale, et donc lorsqu'elle publie un rapport qui suit le processus habituel, il représente les vues des pays membres. Et donc nous avons un processus assez d'ailleurs laborieux, ce qui explique que parfois on met du temps à sortir des rapports qui sont terminés, qui s'appelle le processus de déclassification, donc les pays sont amenés à exprimer leur avis. Bien, et dans les cas des recommandations, ces textes remontent jusqu'au Conseil et deviennent des instruments juridiques de l'organisation. Le rapport dont tous les éléments dont j'ai parlé sont passés par ce processus. Le rapport que vous évoquez, avec raison, a échappé totalement à ce processus. Il existe dans l'OCDE un certain nombre de groupes qui se livrent à une réflexion stratégique et qui ne passent pas par ce processus. Donc le rapport en question est un rapport de l'OCDE parce qu'il a effectivement été édité par l'OCDE, il a été commandé par l'OCDE, mais c'est un rapport de deux universitaires anglais, britanniques, fait partie d'une étude plus vaste. En fait, ces rapports ont été commandés dans le cadre d'une étude plus vaste, toujours de type analytique et non sans passer par le processus formel, sur les chocs mondiaux, global shocks, qui se posent la question intéressante à long terme. C'est un groupe qui travaille sur l'avenir et la prospective, qui se pose la question de savoir s'il existe des domaines dans lesquels certains événements peuvent avoir des chocs en cascade qui finissent par contaminer le monde entier et créer des crises. Alors évidemment, la crise financière est à l'esprit, et donc un rapport sur les dimensions financières a été demandé. Je crois qu'il y a également un rapport sur les pandémies et les problèmes de santé, et puis il y en a eu un sur la cybersécurité. Mais ces rapports ne sont que des rapports d'information d'un groupe plus large. Lequel rapport final va être publié, je crois, là, il est en ce moment en train d'être publié. Je crois qu'il y a une conférence de presse prévue vers la fin du mois. Le rapport en question n'engage absolument pas l'organisation. Et par ailleurs, je tiens à préciser donc que l'un des auteurs de ce rapport a fait un certain nombre de déclarations dans la presse, dans les médias, qui parfois ont tendance à ne lire que la première page avec, vous savez, les executive summary. Alors c'est un rapport quand même assez volumineux sur une étude encore plus vaste. Et donc il a fait un certain nombre de déclarations sur la question de la cyberguerre, qui n'est pas le sujet de son rapport et qui n'est pas non plus le sujet de l'étude plus large. Donc là, on est parti dans une espèce de quiproquo complexe. Pour simplifier, ce n'est pas du tout un rapport qui représente les vues de l'OCDE. Ce ne sont pas finalement, ça illustre bien, en fait, le fait que vous me posiez la question illustre bien la complexité de la situation vers laquelle on évolue. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'émergence de la défense et la sécurité nationale dans ces questions qui bousculent le jeu un peu partout. Je crois qu'on avait ce matin un militaire, et c'était extrêmement utile et qui a présenté une vision tout à fait intéressante et tout à fait en ligne avec ce que j'ai pu évoquer, ce que nous voyons. Et je crois que la tendance est de voir de plus en plus de militaires parce que, eh bien, voilà, Internet devient essentiel pour la société et donc les enjeux de souveraineté existent également. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question.
Oui, Jean Berbineau à nouveau. Sur la responsabilité des intermédiaires, vous avez une réflexion en cours à l'OCDE. Et donc, il m'intéresserait d'une part que vous nous m'en disiez quelques mots, et puis peut-être que Mme Anna Dunchenko pourra nous dire ce qu'il en est en ce qui concerne donc la législation russe et M. Guyard en ce qui concerne la législation au Québec. En particulier la question du takedown, stay down, pour dire en deux mots.
Alors oui, donc le comité, peu importe la bureaucratie de l'OCDE, après tout, nous avons un comité qui s'est penché sur le problème du rôle des intermédiaires Internet dans le développement des politiques liées à l'économie Internet. Et un constat, en fait, tout ça est parti d'un constat qui est que de plus en plus, dans divers domaines, les États confie à des intermédiaires de l'Internet, hein, un rôle destiné à faire appliquer des politiques publiques. Alors évidemment, un exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Adopi en France, hein, où on demande aux fournisseurs d'accès de faire quelque chose pour atteindre un objectif qui vise donc à protéger certains intérêts économiques. Et donc une des questions qui, et c'est pas le seul domaine, c'est vraiment un seul exemple, il y a beaucoup d'autres domaines. Et donc une des questions qui émergeait, c'est quid de la déstabilisation de la situation économique de ces acteurs, de ces intermédiaires-là, parce qu'ils se trouvent techniquement à un endroit de la chaîne où on peut exercer un contrôle, et donc et que ce sont parfois les seuls, ou en tout cas les plus pratiques à aller toucher. eh bien, le gouvernement peut essayer de les utiliser, mais ça implique un coût pour eux, ça implique une modification de leur business model. Il faut donc tenir compte de ces éléments. Donc, c'est la réflexion qui est en cours concerne cette problématique que je décris très très brièvement. Et un des cas qui a été exploré, c'est celui dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure entre les fournisseurs d'accès Internet et le contrôle des botnets. On peut s'imaginer que le fournisseur d'accès Internet finalement est très bien placé pour dire à ses utilisateurs, leur dire, attendez, votre PC là, il est manifestement, il prend part à une attaque quelque part dans le monde, en tout cas a priori dans le même pays que l'ISP, ce sera une information qui est peut-être certainement plus facile à obtenir pour l'ISP si ça se passe dans le pays. Donc faites quelque chose. Alors ça c'est la version simple, la version beaucoup plus lourde et beaucoup plus complexe, c'est donc je vous coupe, je vous préviens trois fois et je vous coupe l'accès. Alors on n'a pas encore ça, je crois, dans les pays que nous sommes en train d'étudier, mais enfin c'est le modèle Hadopi appliqué à la sécurité. Mais on peut imaginer donc aller sur ce site que le gouvernement finance et qui va vous aider à nettoyer votre PC. Et ça c'est le modèle allemand où le gouvernement allemand a investi dans une plateforme de nettoyage qui aide les internautes à décontaminer leur PC, mais ce sont les fournisseurs d'accès qui envoient leurs clients sur cette plateforme. Et c'est des schémas un peu complexes qui sont public-privés et qui ont pour objectif d'améliorer, de réduire les risques. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Alors juste pour préciser, donc nous sommes en train de préparer une recommandation dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre de rapports qui ont été publiés sur Internet et il y a une recommandation qui est en discussion qui fixera un certain nombre de principes. Quand les gouvernements souhaitent faire jouer un rôle à des intermédiaires Internet, eh bien, ils devraient considérer un certain nombre de points. Voilà.
C'est juste deux mots peut-être pour vous. À vrai dire, en ce qui concerne la Russie, vous avez demandé s'il existe des intermédiaires, qu'est-ce qui se passe. Moi, dans mon intervention, j'ai nommé le nom nao.ru. C'est bien l'intermédiaire qui existe. C'est cette mission-là qui élimine toutes les bases contagieuses, si je peux le nommer comme ça, toutes les bases illégales. Mais je crois que ce n'est pas bien la question pour aujourd'hui, dans l'Internet, il n'est pas bien défini qui est vraiment responsable pour tous ces actes, ou bien c'est bien l'auteur du droit, ou bien c'est celui qui regarde quelque chose, ou bien c'est même celui à qui appartient le contenu, etc. etc. C'est-à-dire c'est un dialogue qu'il faut mener, même pas parmi nous, mais peut-être parmi les membres de G20 et de G8, parce que cela préoccupe vraiment beaucoup de personnes maintenant dans le monde entier. Mais en ce qui concerne la Russie, bien sûr, en ce qui concerne le piratage, on fait beaucoup de choses, et voilà pourquoi j'ai nommé le nao.ru, parce que ça c'est le site qui est très très efficace, qui est vraiment de qualité et qui nous aide beaucoup, mais bien sûr cela veut dire que ça doit exister cette aide légale qui malheureusement n'existe pas, mais voilà, si j'ai bien répondu à votre question.
Très brièvement, par rapport à la question que vous avez posée, au Canada, on peut noter, à certains égards, une participation effectivement des divers intermédiaires du privé, mais il y a des fournisseurs d'accès Internet ou de communication également une certaine déresponsabilisation par rapport au contenu. Certaines législations canadiennes viennent créer des obligations ou des responsabilités à ces intermédiaires-là. Récemment, dans les derniers mois, le Canada a adopté une loi qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à dénoncer lorsqu'ils voient du contenu de pédopornographie. C'est vraiment une petite, je dirais, une étoile dans la constellation des actions à poser. Il y a ce type de loi qui viennent responsabiliser certains intermédiaires. mais on a beaucoup de difficultés, effectivement, à inculquer cette culture de la responsabilisation par rapport au contenu. On peut le voir dans certains cas de figure, par exemple, avec l'hébergement du matériel de pédopornographie. Les opérateurs, les gens qui ont des sites de pornographie juvénile ou de pédopornographie, hébergent sur des serveurs qu'ils louent à la carte, donc de manière anonyme. Ils les hébergent chez un fournisseur. Et lorsque les forces policières se rendent compte de la présence de ce matériel illicite, ils en avisent cet intermédiaire, ce fournisseur de services, cet hébergeur de services Internet, qui, lui, obtempère immédiatement en fermant ce serveur Internet ou ce site. La seule problématique, c'est que ce délinquant ou ce groupe de délinquants vont ouvrir ou vont héberger leur pornographie tout de suite le lendemain ou dans les heures suivantes chez un autre hébergeur. Alors, les intermédiaires vont se déresponsabiliser en disant ce n'est pas nous les responsables, nous on agit quand on est mis au courant. C'est la nature même de la technologie qui favorise le crime et non nos actions. Alors, il y a cette culture qui est difficile à renverser, à notre niveau.
Oui, Jean-Pierre Bigot, je suis expert judiciaire. J'ai souvent des affaires de cybercriminalité sur lesquelles j'ai des expertises à faire, qui me sont confiées. Je voulais tout de même faire 2-3 observations. La première observation, c'est qu'on gagnerait à avoir une définition quand même plus stricte de la cybercriminalité, parce qu'à ratisser trop large, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. En gros, il y a 3 types d'infractions que l'on rencontre en masse. Les premières infractions, ce sont des escroqueries, dans lesquelles la qualification est relativement simple. Quand vous recevez une ivoirienne, c'est clairement une escroquerie. Vous avez également des infractions qui sont des infractions de droit d'auteur, donc on en a beaucoup parlé. Et puis vous avez une troisième type d'infractions qui sont en gros les infractions de presse. C'est-à-dire, ça peut aller du négationnisme à toutes sortes de choses de ce type, et dans lequel, là, on est dans une zone grise beaucoup plus complexe, parce que d'abord, les législations ne sont pas les mêmes, et puis d'autre part, puisqu'on a parfaitement le droit de faire ce genre de choses aux États-Unis et pas en France, par exemple, et d'autre part, parce que ce sont des domaines dans lesquels il n'y a pas de frontière toujours bien nette entre entre la censure et puis le droit d'expression. Donc c'est assez complexe de trouver une voie. Et donc dans ce domaine-là, la réflexion que je voulais faire, c'est que quand vous parlez d'outils techniques comme les botnets, les proxys, tout ce que vous voulez qui existe comme outils, que ce soit Tor ou autre, je voudrais tout de même signaler que ce sont ces mêmes outils qui sont des outils très ambivalents, puisque ce sont ces mêmes outils qui sont utilisés par les opposants tunisiens ou iraniens pour s'opposer. Par exemple, il y a eu des dénis de service qui ont été organisés en masse contre les centres ou les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur tunisien. Et donc, c'est excessivement ambivalent. Donc, dans tout ce domaine-là, je ne suis pas certain qu'on peut avoir, cette illusion de société sécuritaire, hein, avec un Internet civilisé, tout propre, parfait. Et je pense même que ce serait dangereux. Donc, moi, je pense que l'on gagnerait à concentrer le propos sur la lutte contre la cybercriminalité en tant qu'escroquerie. Excusez-moi, ce n'est pas une question, mais je vous propose de réagir sur la question, si vous souhaitez.
C'est pas une question, alors je ne vais pas faire de réponse. Hein. Je pense que ce que votre remarque évoque rejoint tout à fait la problématique que nous avons depuis l'origine, qui est chaque fois qu'on aborde la question de la sécurité, probablement pas exclusivement Internet d'ailleurs, ni informatique, se pose la question indispensable de l'équilibre avec les valeurs fondamentales. Et la technologie elle-même n'est pas vecteur de criminalité ou de nuisance, ce sont ses usages qui le sont, et donc il est important de regarder l'ensemble des impacts de ce qu'on envisage. Sur votre conclusion, je ne sais pas si je vous suivrai, par contre, de limiter le champ de la cybercriminalité. Je pense qu'il faut garder des concepts, en tout cas, tant qu'on est sur le plan des concepts, et pas nécessairement dans la pratique du droit, hein, mais sur le plan des concepts, je pense qu'il faut les garder ouverts, parce que c'est un univers qui évolue extrêmement vite, où les criminels, les comportements d'ailleurs des individus évoluent à grande vitesse. Pour avoir étudié la question de la protection des enfants, c'est presque un défi insurmontable pour le gouvernement de développer des politiques de protection des enfants quand les parents sont à 4 générations en arrière de ce qui se passe chez eux sur leur ordinateur. Je garderai l'esprit ouvert à l'égard des concepts pour pouvoir avoir de la flexibilité et pouvoir réagir. Il y a suffisamment de lourdeur dans la définition des politiques, dans le processus eux-mêmes, pour ne pas en ajouter en refermant le champ. Voilà, c'est juste une réflexion.